Radio Silence, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 novembre et vous écoutez Flash sur le monde pour Radio Silence. Bon, la fin de l'année, c'est pour bientôt, mais les problèmes politiques ne s'arrêtent jamais. Cette émission va être un peu, c'est pas décousu, mais on passera d'un sujet à l'autre, du coq à l'âne, comme on dit, mais ce sera juste un effet. Vous pourriez avoir cette impression, voilà, une impression, mais en vérité, il y a toujours un fil conducteur qui, ici, va être. Va un peu se. Pas se centrer, mais un peu comme ça, va tourner autour des suppressions des libertés, et en particulier de la liberté d'expression. Donc je vais, dans un premier temps, un peu insister là-dessus, surtout par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Là, peut-être que pendant qu'on va enregistrer, il y aura un coq hein, qui va chanter, mais ça, vous avez l'habitude maintenant, tout simplement parce que il y a des gens qui pensent qu'en plein ville, ils peuvent, en pleine ville, ils peuvent élever avoir un poulailler à ciel ouvert et sans que personne ne dise rien. Et ce poulailler fait que bah, le choc, les coqs se baladent, les poules se baladent avec les poussins et puis vous avez le bruit que vous avez et vous tenez le coup comme cela. Il n'y a rien à faire. Bon, ici, on a parlé beaucoup de la décentralisation. Il se trouve justement que cette décentralisation n'a rien changé à la donne, sauf qu'elle ouvre quand même un peu le débat sur certains faits qui vont. Qu'il y a derrière ce que je dis là, parce que cette dame qui a un poulailler, bah, c'est quelqu'un qui est venu de l'Ouest, vous voyez, comme on dit, qui est venu d'ailleurs, venu dans un autre territoire, et puis qui se comporte ainsi. Donc il y a en ce moment au Cameroun quelque chose qui serait de l'ordre d'une. On prône le vivre ensemble, mais en fait, il y a quand même une suspicion de se vivre ensemble, parce que certains se donnent des droits que même les. Enfin, ils désapproprient les propriétaires des terres. Et la question de la terre va être le prochain défi ici, parce que si on n'a pas de terre, on n'a plus rien, puisque l'Afrique, contrairement, au Maroc, où les terres appartiennent. Ou en Occident, où les terres appartiennent à l'État, les migrations sont telles que les gens ici ont conquis leurs terres, leurs grands-pères, leurs ancêtres, par la lance, vous voyez, par le corps, par des combats. Et donc la terre appartient vraiment aux descendants de ces ancêtres et n'appartient pas à l'État. Donc quand l'État arrive et qu'il veut. Comme on a vu, comme on voit déguerpir, mais ce n'est pas le mot, exproprier les gens de leur terre pour leur trouver une autre. C'est un peu trop facile, ça ne devrait pas se faire de cette façon-là. Il faudrait, si on suivait la logique de la conquête de la terre, il faudrait que l'État ait acheté sa terre, parce que l'État a l'argent, et pas seulement l'État, il y a aussi des ethnies friquées en ce moment, qui se comportent de la même façon, un peu en spéculateur. La spéculation immobilière, il y a une pression très très forte Et donc, ça va être un problème pour ceux qui vont vouloir résister, parce qu'une fois qu'on a supprimé les libertés, qu'est-ce qu'on vous supprime après? C'est la liberté de résister. Voyez, et si vous résistez, ça va se passer très mal. Et donc, moi, sur la question des libertés, j'ai deux exemples qui font mal au cœur, en dehors de cet exemple-là d'expropriation. C'est l'exemple il y a eu deux sorties, hein, le recteur de l'université de Yaoundé 1 est sorti et il a mis en garde tous les enseignants et ceux que le personnel associé contre toute parole qui serait jugée désobligeante par lui ou pour l'université, que ce soit dans les médias, quel que soit l'espace public ou alors dans les réseaux sociaux, parce que le flicage va aller jusque-là. Donc si vous êtes enseignant et que vous êtes pris dans cette spirale-là, vous serez certainement renvoyé de l'université. Bon, c'est des choses qu'on ne pensait pas entendre dans un environnement universitaire, parce que c'est ça qui tue la culture. Quand vous tuez la liberté d'expression, vous tuez aussi tout ce qui est phénomène culturel. Et de fait, quand vous arrivez dans les universités africaines aujourd'hui, enfin africaines du Cameroun, il n'y a pas de vie culturelle parce que c'est risqué. C'est risqué, ça va être interprété d'une façon biaisée. Et ici, vous avez le politique partout. Partout, tout est politisé. Même la moindre critique est politisée. Ça veut dire tout de suite, vous êtes contre le pouvoir, vous voulez qu'il s'en aille. Il y a une frilosité des leaders politiques et du gouvernement qui est assez incroyable, et pas seulement le gouvernement, parce que le gouvernement en ce moment, c'est plutôt gestion en mode invisible, dans l'opacité la plus totale. Et donc, on a de temps en temps une sortie comme ça. Là, c'est le recteur qui est sorti. Et puis, de l'autre côté, aujourd'hui même, c'est l'institution chargée de rémunérer voilà, des droits d'auteur des musiciens qui sort, des artistes, et qui lance le même ultimatum, genre si un artiste continue, essaye ou continue, parce que certains ont déjà été sanctionnés, et il semblerait qu'ils n'écoutent pas, de critiquer la façon selon laquelle ils sont gérés, bah, là aussi, il y aura des sanctions qui vont aller jusqu'à leur radiation de la liste des musiciens ayant droit aux droits d'auteur. Mais j'ai envie de dire, de quel droit? Et de quel droit un créateur, un musicien, a ses produits, si vous le radiez de ses droits, bah à ce moment-là, il faudrait plus aussi que quelque part on ait sa chanson qui chante. Donc c'est mission impossible. Ce sont des administrateurs qui s'octroient des pouvoirs qui ne sont pas les leurs. Par exemple, si l'université s'estime bafouée, ou si cette maison, le président de cette maison de disques se trouve, enfin de la maison de disques de la maison, l'institut chargé de rémunérer les musiciens se trouve critiqué, il y a toujours la justice qui est là pour vous pouvez y aller pour vous plaindre pour une diffamation par exemple ou pour une diffusion d'informations fausses. Mais ici, c'est bizarre, on confond toutes ces choses. Et moi, je dis un pays où on commence à censurer les enseignants de l'université et les musiciens, est un pays qui est engagé dans la déliquescence non seulement de ces institutions, mais de tout le reste. Et c'est un appauvrissement incroyable qui est même pratiquement, je vais pas dire insupportable, mais on n'en est plus là. Vous ne pouvez pas censurer un artiste, c'est vrai. On a dit ici qu'il y a des idées. Et d'ailleurs, les artistes visés, ce n'est pas ce qu'on croyait, puisqu'on disait qu'il y avait une façon ici de s'exposer un peu pornographique, de faire les choses, et que les filles aujourd'hui, les chanteuses féminines de Bikutsi, par exemple, elles ont tendance à trop sexuer une musique qui n'a pas besoin de l'être. Ben, personne n'a jamais dit qu'on devait vraiment censurer plus que ça, ou qu'on devait rayer les rayer enfin, les exclure de leurs droits. Donc c'est très embêtant d'arriver à ça. Et moi, j'ai vu des choses ici parce que, parlant de l'université, ils ont fait ça à un enseignant à l'IRIC, à l'Institut de Relations Internationales du Cameroun, Monsieur Nyamding, qui a d'ailleurs eu gain de cause. On l'a affecté brutalement comme ça, très très loin là-bas, une affectation qui ressemblait bien à une affectation disciplinaire, parce qu'il était souvent invité sur les plateaux de télévision. On l'a affecté brutalement du jour au lendemain, chef de département, il n'est plus en pleine année scolaire. Il a porté plainte et il a eu, après il a porté la chose devant la justice, il a eu gain de cause parce qu'en plus, le ministre ne s'était pas donné la peine de lire, parce que c'est le ministre qui peut débaucher un chef de département de l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Et il s'était pas donné la peine de lire le contrat. Et dans le contrat, il était clairement mentionné qu'il y a que son employeur, c'est-à-dire l'IRIC, qui peut le débaucher et pas le ministre. Donc il y a eu une vice de procédure incroyable. Bon, il a eu gain de cause, il est revenu. Donc la justice peut régler ces choses-là. Et c'est vrai que Monsieur Nyamding, il avait les moyens, parce que la justice, il faut payer. Et ce n'est pas les petits salaires des enseignants à l'université qui vont leur permettre forcément d'engager des actions en justice s'ils étaient victimes de quelque abus que ce soit. Bon, franchement, bon, on va passer là-dessus, mais on passe pas tellement parce que c'est toujours, vous voyez, les reflets, comment j'allais dire, les circonvolutions, si on peut dire comme cela, du système, vous voyez, qui a entouré toute l'élection présidentielle, non seulement ici, mais aussi aux États-Unis, et qui va peut-être entourer l'élection en France, qui fait que si vous parlez, vous voyez la chasse à Zemmour, il y aura des problèmes, il y aura des problèmes, et je ne sais pas pourquoi Zemmour s'inquiète pour ses sondages. Il semblerait qu'il serait en baisse dans les sondages. Mais les sondages sont forcément faux. Ils ne peuvent pas être vrais, sauf par un effet de coïncidence, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'ils sont obligés de partir sur des hypothèses et d'avoir un échantillon réduit qui n'est pas représentatif. Il peut jamais être représentatif. C'est pas parce que vous avez 18 ans comme moi ou 60 ans comme moi, ce que je voulais dire, que nous avons, parce qu'on fait des catégories, vous êtes diplômé, vous avez quel âge, vous êtes un homme, vous êtes une femme, etc. C'est pas parce qu'on est du même sexe, on est dans la même tranche d'âge, la même génération, qu'on est peut-être dans les mêmes milieux professionnels ou des milieux professionnels associés. Voyez, il y a des catégorie comme ça qu'on va voter forcément de la même façon. Ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et les sondages sont obligés de catégoriser comme ça. Et si Zemmour le sait plus que tout le monde, pourquoi il va s'en inquiéter? C'est qui est le plus énervant, enfin, qui est le plus surprenant, parce qu'énervant, c'est peut-être. On s'énerve plus maintenant, ça sert à rien. C'est de lire que Xavier Niel, ou Niel, je sais pas comment prononcer vraiment ce nom-là, le propriétaire de fruits, est quelqu'un qui possède Le Monde, l'Obs, Télérama. Télérama, c'est la culture. Le Monde et l'Obs, c'est deux journaux de gauche. Je sais plus, il y en a d'autres. Et Mediapart. Mediapart qui se veut être l'antithèse du politiquement, enfin, de la compromission journalistique. Quand vous avez ce monsieur Niel qui est par ailleurs propriétaire de Free, c'est-à-dire distributeur de la téléphonie, et que vous entendez qu'il serait mêlé à des histoires de porno-pédophilie en tant que banque de données, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez. Pourquoi voulez-vous que les sondages soient justes? Et ils peuvent pas être justes. Ils ont choisi, s'il y avait un titre à donner à cette émission, ils ont choisi, l'establishment a choisi de le remake de Marine Le Pen contre Monsieur Macron. C'est ce qu'ils veulent voir. Et ils veulent tellement le voir qu'ils savent que Marine Le Pen va perdre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour que ça marche, il faut que on casse les dents aux artistes, qu'on tape sur les mains de certains enseignants du supérieur qui risquent de venir dire des choses qui vont pas aller dans ce sens. Donc on verrouille, hein, vous voyez, les lieux où une influence peut arriver et peut contrarier les plans de l'establishment. Mélenchon a là-dessus un programme clair, c'est qu'il va démanteler tous ces grands groupes de presse. Enfin, oui, les démanteler, parce qu'en fait, derrière toute cette profusion de médias, il n'y a que 9 personnes, en fait, 9 milliardaires qui détiennent environ une cinquantaine, voire 100 titres. Donc, et ça dure depuis longtemps. Et on dit rien. Enfin, aussi, on a créé le CSA pour décompter le temps de parole. Le temps de parole, il ne sert à rien. Enfin, il ne sert à rien. C'est un pis-aller. Et regardez, par exemple, M. Macron, il a parlé. Est-ce qu'il a... Ça a toujours été l'avantage de tous ceux qui sont présidents, de pouvoir continuer comme ça pendant longtemps à bénéficier, à jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'ils sont des candidats, ils vont être candidats. Mais en attendant, ils profitent très bien de leur statut de président de la République pour grappiller du temps de parole. Quelque part, le temps de parole, oui, mais il faut vraiment démanteler tout ce gangstérisme derrière la pseudo-pluralité et diversité des médias. Bon, ça va pas être très long l'émission aujourd'hui parce que si je rentre dans les détails, je vais commencer à me fâcher avec tout le monde. Mais j'ai quand même envie de dire une chose ou deux. La première me concerne vraiment particulièrement parce que particulièrement, c'est une expérience que je fais ici, une expérience que je fais ici au niveau de l'université, où je vois que, alors d'abord, c'est très surprenant. Hein, parce que tous ceux que j'ai côtoyés, ils ont eu une promotion, c'est-à-dire mon chef de départ, le chef de département où j'étais, en sciences du langage, il a eu une promotion, le chef de département, pas le chef de département, oui, chef de département où j'ai été faire un peu à l'ESTIC, ça c'est l'école de l'information et de la communication, lui aussi il a une promotion, il est devenu secrétaire général de l'ESTIC. Et mon ami, enfin ma promotionnaire avec qui j'étais au lycée, qui était chargée de la scolarité, est devenue directrice de la même institution. Donc tous ceux que j'ai fréquentés rapidement ont eu une promotion. Pendant ce temps-là, moi, j'ai connu que des freins et des reculades et des obstacles derrière eux. Le dernier en date, avec eux, le dernier en date. Alors c'est marrant, déjà l'an dernier, j'ai pu à peine commencer, ça a créé un désordre là-bas, tout le monde voulait faire cours, puis on a profité du Covid avec le numérique pour me dire, oui, mais vous savez, les cours à distance, apparemment c'est pour les titulaires. Bon, ok, bref, j'ai laissé tomber. Cette année, rebelote, je ne sais pas comment on rappellerait, parce que moi j'ai raconté l'histoire et avec le mandarinat, on n'a pas le droit. Et on me rappelle, et curieusement, je vois qu'il y a trois, on est trois pour donner ce cours. On est trois pour donner un cours qui s'appelle Théorie, Introduction aux sciences de l'information et de la communication, Théorie de la communication et courant moderne et contemporain. Bon, en communication. Franchement, moi, je ne sais pas, il faut qu'on m'explique la différence entre théorie moderne de théorie de la communication et les courants. Entre théorie et courant, quelle est la différence? Premièrement, mais jusque-là, on nous dit on sera. Je me suis dit, comment on peut être à trois? Le professeur qui devait être là l'an dernier n'était plus là. Donc j'ai fait cours toute seule. Et cette année, est-ce qu'il revient? Et pourquoi une troisième personne? Bon, je ne comprends rien. Et j'arrive. Ah non, mais finalement, le professeur ne sera pas là. Ça sera avec cette personne-ci. Comme par hasard, Bon, je vous dirai après, on va garder ça pour le suspense, pour la narration. Alors, comment on fait? On est deux. Ah, mais quelqu'un qui dit qu'il est responsable, parce que vous savez, ils sont responsables de quelque chose là-bas, de tout, responsable des premières années, parce que les premières années, c'est horrible, je n'enseigne pas les premières années parce que c'est des bébés, ils sortent du lycée. Si vous arrivez avec un cours magistral, ils ne comprennent rien, ils ont besoin de la dictée, c'est très, très difficile. Et pour ce qui est payé, 3 000 francs l'heure, ça veut dire 1 euro 5 fois, qui fait 1 000 francs fois 3, ça fait 4,05 € que vous aurez. Pour ce cours-là de l'heure. Donc, 2 heures par semaine, vous voyez, vous allez très loin avec ça, et puis vous êtes payé à l'heure, vous n'êtes pas embauché, donc ça change beaucoup de choses. Bon, j'ai regardé tout ça, j'ai pas compris. Bon, ok. Finalement, on fonctionne comment? Ah, ben, soit vous faites 1 heure chacune, soit alors on a pensé qu'il pourrait avoir cours mardi, puis l'autre jeudi. Bon, ok, bon, moi je fais mardi, voilà. Bref, et puis. De fil en aiguille, le protocole a changé. J'apprends que, en fait, l'autre fille qui est venue, l'autre docteur, j'appelle fille parce qu'elle est jeune par rapport à moi, l'autre docteur qui est venu a été conseillé par le professeur qui devait être là la fois dernière, et lequel professeur l'année dernière, qui n'est pas là depuis, et lequel professeur est secrétaire général au ministère de l'Information et de la Communication. Ah, c'est lui qui a conseillé. Il a trouvé que cette fille devait le remplacer, pouvait très bien le remplacer. Bon, il fallait pas m'appeler, puisque cette fille peut très bien remplacer. Et vous savez d'où vient la fille? Et c'est là où vous voyez que c'est que des combines. Elle vient de l'ESTIC. Ah, l'école dont je vous ai parlé, où j'ai été faire deux séminaires, sous l'ordre du nouveau secrétaire général de l'ESTIC. Vous voyez? Ça se regroupe, hein, comme par hasard. Et moi, quand je suis allé à l'ESTIC, c'est vrai, j'étais parrainé par le ministre de la Communication et de l'Information. Ah, voyez un peu. Donc, c'est le même ministère où le secrétaire général se dit, je n'ai pas envoyé une affaire 100% ethnique. On parlait des ethnies tout à l'heure. Là, l'ESTIC, c'est l'ethnie présidentielle, qui a estimé que je les avais offensés en faisant appel, en venant sous le parrainage du ministre, lequel ministre, moi, je connais depuis que je suis à la fac, parce que je connais son épouse, nous étions amis, j'ai vu cette relation débuter, donc c'est comme un frère. Alors, j'y vais, pour lui, c'est normal, c'est pas parce que je suis une sœur ou quelqu'un, mais parce qu'il a vu le CV. Donc, il dit, ce CV est bon, il peut aller à l'ESTIC. Et à ce moment-là, il y avait Monsieur Boyomo, c'est une affaire ethnique, hein, qui lui était du même côté, qui était le directeur de l'ESTIC. Lui est de la même tribu que le ministre de l'Information et de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Vous voyez un peu? Donc, Monsieur Boyomo est parti à la retraite. Du coup, mon ami, ma copine, ma compatriote, ma. Tout et tout, on est à l'école, directrice, et le nouveau chef de département, qu'est-ce qu'ils ont fait avec monsieur qui est le secrétaire général de l'information, au ministère de l'Information et de la Communication, le professeur qui devait être là, qui n'est pas là. Bon, ça ressemble à un scénario comme ça, on envoie celle de l'ESTIC venir faire cours précisément dans mon cours, pas ailleurs, vous voyez? Donc, moi, j'ai dit au chef de département que. Pour le bien des élèves, parce que moi, je n'irai pas suivre ces cours, évidemment. Pour le bien des élèves, je pense pas que ça soit très productif, mais ici, on s'en fout, hein. Que ça soit productif, c'est la médiocrité qui fonctionne. Ou alors, on me dit non, non, mais c'est comme ça, c'est pas la médiocrité, c'est la forme, le fait d'être deux sur un cours, ça veut dire peut-être je ne sais pas quoi. Bon, vous voyez, si maintenant je le dis comme je le dis là, parce que je suis persuadé à 100% que ça fait partie de la stratégie qui vient de Paris, puisque je fais la politique, à Paris, quand il dit Paris, c'est le politique, on a dit elle enseignera jamais ici, et puisqu'on a dit elle enseignera jamais ici en France, on viendra poursuivre dans les colonies cette ultimatum envoyé, hein, dans le système. Donc partout où vous irez, vous n'enseignerez pas parce qu'il y aura des valets là-bas et ici des négriers qui vont faire le travail pour que vous ne puissiez pas enseigner. Voilà. Donc c'est ça, ça passe par des combines. L'an dernier, ils ont même laissé quelques cours, deux cours avant de se manifester. Mais alors là, ça a commencé. La manœuvre a eu lieu tout de suite. Je ne comprends pas. Vous êtes déjà embauché à l'ESTIC. Il faut encore plus d'argent. Vous venez sur le cours de quelqu'un qui est associé à l'université. Tout ça, pourquoi? Parce que les ordres sont venus de Paris. Sûrement pour empêcher cela. Et comme ils sont dans les mêmes sectes, et le ministre de l'enseignement supérieur, qui a été directeur aussi de l'ESTIC, jusqu'à présent, c'était le seul sémiologue, du coin. Alors moi, j'arrive, je suis sémiologue, ça peut pas aller, ça peut pas aller, il faut détruire tout ça. Et c'est des gens, quand on a vu comment les présidents et l'élite africaine saluent l'élite française, vous voyez un peu, il se courbe. Vous voyez très bien qui peut avoir fait tout cela. Et pourquoi voulez-vous pas que dans ces conditions, on soutienne Zemmour ou Monsieur Mélenchon? Parce que ça, c'est le genre de choses qu'il faut changer. Il faut changer ces pratiques des voyous qui sont au pouvoir et qui nomment des personnes sur des bases. Alors, Monsieur Bézigui, qui est ici, je termine là-dessus, qui est président du PAL, le Parti de l'Alliance libérale, il a été aux États-Unis, il est revenu, il a fait ses études de commerce en France. Il critique. Il fait une critique, il fait une sortie sur le livre de M. Cabral Libi, qui est intitulé Le fédéralisme communautaire. Oh, moi, je n'ai même pas pu décrypter, mais lui, il a pu décrypter en disant, mais si c'est l'idée que chaque tribu, chaque ethnie, ou plutôt que le fédéralisme va se calquer sur des contours ethniques, pour lui, M. Bézigui, il n'est pas d'accord parce que... D'abord, ça relève d'une pensée primitive qui est même antérieure, c'est-à-dire antérieure au père fondateur, Oumiobé, par exemple, et à Ahidjo aussi dans les années 60, et qu'on n'en est plus là, et que ça allait vers, ça pouvait constitutionnaliser une bande, les Bantous, hein, Bantous, Bantous, il a utilisé une expression, j'arrive pas à dire ça, une bantoustation, enfin quelque chose comme une balkanisation. Mais vous remplacez les balcons par bantou de la société. Et ça, ce n'est pas acceptable au moment où il faut aller vers une conscience nationale et vers une culture citoyenne pour que les gens ne déclarent pas seulement qu'ils veulent vivre ensemble, mais qu'ils vivent effectivement ensemble. Ça, c'est un point de vue qu'il présente comme quelque chose. Oh, comment on va dire, de dommage. J'ai pas ces mots-là, je sais plus où j'ai mis ça, parce qu'il pensait quand même que de la part d'un jeune, vous savez, la dernière élection présidentielle ici s'est jouée aussi sur, on va dire quoi, un gap générationnel entre les jeunes qui pensaient tout savoir avec leur candidat Cabral Libi et puis tous les autres qui étaient vieux, qui devaient être disqualifiés sur la base de l'âge. Certains ont On dit, peut-être l'âge, vous savez, l'âge aussi apporte l'expérience quand même. Et donc la jeunesse aussi va avec l'inexpérience quand même. Mais on a dit non, non, comme pour Macron, la jeunesse va tout remplacer, ça va tout va aller très très bien. Ça fait que on a des réflexions comme celle-ci qui arrivent sur le terrain maintenant. Et pourquoi elles arrivent? Elles arrivent parce que ça comble un vide de la pensée politique, voilà, c'est le mot que M. Bézigui utilise, ça comble un vide de la pensée politique qui n'existe plus. Et souvent, et comme on l'a vu, beaucoup de ces penseurs comme ça sont soit des envoyés du système, soit ont été faits et promus par le système. Alors ça jette un trouble, un grand trouble sur, comment dirais-je, la possibilité même d'innover et de concevoir une pensée politique, disons, audacieuse ou innovante, puisque si vous supprimez les libertés, si vous conditionnez les gens, ben les gens, ils peuvent plus tellement réfléchir parce qu'ils s'auto-censurent eux-mêmes et ils sont dans un environnement de censure. Qui plus est, quand là derrière, vous avez l'idée que, pas l'idée, le fait, la réalité, que beaucoup de ces jeunes sont des mal appris, comme disait Monsieur Bayrou, parce que bah, les contraintes universitaires sont telles qu'on ne peut pas aller au-delà de ci, au-delà de ça. Les enseignants, ils essayent de rentrer dans ce moule. Et moi, j'appelais ça la médiocrité. Mais c'est pas ça, c'est que bah, ils sont fliqués. Donc, ils disent ce qu'ils peuvent dire. Les gars sont mal appris. Ils sortent de là. Et en plus, on apprend beaucoup de choses sur tout ce qui est corruption de délivrance des diplômes et corruption de nominations, des attributions de poste, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que quand vous allez encore fouiller, vous allez voir qu'il y a un monsieur qui a sa maîtresse, qui a envoyé sa maîtresse. Vous voyez? Donc, on ne commente pas parce qu'ici, c'est des choses, des faits courants. Le rouleau compresseur comme ça de la corruption et de la censure et forme de violence de la gouvernance font que mais la pensée ne peut être que ça. Monsieur Bézougui peut s'en désoler, mais la pensée ne sera que cela. Elle ne peut pas être plus que cela. Bon, maintenant, c'est vrai que lui, il peut proposer une et il dit que c'est le problème du Cameroun, c'est l'économie. Ah, c'est quelqu'un qui a fait une grande école de commerce à Paris. Donc, il est dans une logique économique, comme il y a un autre consultant ici qui passe partout, qui s'appelle Monsieur Issoumba, Dieudonné. Lui aussi, il ne parle que comme économie, économie, économie. Ben, je suis désolé. Je suis désolé. En même temps, je comprends cela. Je comprends cela. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, on a vu que c'est les acteurs économiques, puis financiers surtout, qui font les présidents, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir financier. D'accord. Et ce faisant, on voit les résultats qu'on a. Si on prend le problème sociétal par le bout économique, on ne va pas y arriver. La preuve, nous en sommes où? C'est vrai, Keynes, après, au sortir de la guerre, a relancé l'idée de l'économie mondiale, qui a donné naissance d'ailleurs au FMI, à travers la politique, je ne sais plus, il faisait quoi, une politique de la demande. Bon, oui, mais en même temps, derrière cela, il y avait une pensée politique, il y avait une vision politique, il y avait une vision progressiste, qui était basé sur une gouvernance vertueuse, où on se disait, si vous avez besoin de liquidités en tant que pays, on va vous les donner, à condition que ces liquidités-là vous permettent d'apporter votre part et votre contribution dans le développement de la mondialisation, enfin globale, que tout le monde puisse en profiter, que vous rentriez dans un moule compétitif. Donc, l'économie et la politique ne sont pas, pour moi, à placer face à face. Ça ne s'oppose pas. Ça va ensemble, mais quand même avec une priorité aux politiques, parce que l'économie, après, c'est vrai qu'on peut rentrer dedans et dire économie sociale, économie d'ici, de ça, mais souvent, quand ils disent économie, ils sont dans une économie pure et dure. Vous voyez, c'est pour ça que le parti s'appelle l'Alliance libérale. Mais la politique. La politique, vous voyez, quand ils disent économie, je ne sais pas s'ils ont mis l'enseignement supérieur, je ne sais pas s'ils ont mis la culture, certainement pas. Vous voyez, donc la politique est là pour faire en sorte que tous ces paramètres et tous les secteurs de la société soient convergents, convergent vers le but, vers un horizon que le politique se fixe. Si le politique n'a pas de vision, attend ses ordres de Paris, monsieur l'ambassadeur de France a dit, si oui, ben, eux, le CFA, les Africains n'ont qu'à faire ce qu'ils en veulent, eux, ils n'empêchent rien, et il dit aussi qu'ils ne protègent aucun chef d'État. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils sont ici, nous sommes revenus à une période où nos chefs d'État se comportent comme les vendeurs d'esclaves. La preuve au Cameroun, on est toujours là avec la double nationalité qu'on n'a pas, et puis avec cette idée que la diaspora serait tout imbécile, et eux ici, ils seraient très intelligents. La preuve, le Cameroun a régressé tellement. Ah oui, ben c'est vrai, il va faire dans les bitcoins, il va faire dans ci, dans ça, des choses, des rêves, des illusions, puisque le peuple n'a même pas l'eau, il n'y a même pas de route. Et même pour faire ces routes, il faut que ce soit la France qui vienne, il faut que ce soit la Turquie qui vienne, il faut que ce soit l'Arabie Saoudite, il faut que ce soit, voilà, l'étranger qui vienne faire une route chez vous alors que vous avez des écoles d'ingénieurs. Et vous êtes très intelligent, la diaspora est toute bête, elle vient vous emmerder. Non, il y a des problèmes ici. Et en plus, là-dessus, on voit qu'il y aura la CAN. Il y aura la CAN. Les joueurs de double nationalité sont sollicités. Ah, vous croyez que ça n'avait pas cours. Et Monsieur Eto'o, le grand joueur, il veut plus être docteur, c'est bien. Il s'est souvenu qu'il était footballeur. Donc, il revient, il veut être président de la FECAFOOT. Ah, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il a une double nationalité, quelqu'un l'a rappelé, et que par rapport à ça, il peut pas être candidat pour la FECAFOOT. Soit on est tous égaux, donc la conscience citoyenne, enfin le fait citoyen, la culture citoyenne, donc M. Bédiguy parlait, bah, soit on ne l'est pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la majorité de l'élite a une double nationalité. Et fait ce qu'elle fait là, les passe-droits, pourtant, etc., etc. Mais on voit quand même, en parlant de l'argent, où va l'argent? Où va l'argent? Deux scandales aussi à la suite. On apprend que Vision 4, la chaîne de celui qui a acheté Télésud, qui ne marche pas en France, et pour cause, Vision 4 a eu une subvention de 2 milliards de francs CFA pour, voilà, depuis 2017. Les autres télés, tous les médias fonctionnent à la subvention. On apprend aussi à la suite d'un scandale ici sur la mise en évidence d'un réseau lesbien, de lesbiennes dans le football féminin camerounais, bah, que les sportives reçoivent des subventions à l'œil, bah, les marchés publics sont détournés. Vous voyez, c'est une société du détournement permanent. Et si les universités sont interdites de parole, les intellectuels qui peuvent changer les choses, si les artistes sont interdits de parole, les gens qui peuvent changer les choses et conscientiser le peuple, si les politiques qui arrivent, bien que jeunes et tout, arrivent comme étant des machines commandées pour en mission, pour donc essayer de comment on va dire, de réinventer l'eau chaude, parce que tout ce qui est dit ici, c'est les contours ethniques, ça c'est la décentralisation qui a déjà apporté les garanties pour cela, en sorte que vous ne pouvez pas venir d'un autre territoire et être maire sur une autre région, ça sera pas possible, même pas conseiller municipal, ça va être très compliqué. Donc la décentralisation a déjà résolu ces problèmes-là. Et il y a un camion qui passe. Bon, c'est la vie, nous sommes dans la vie. Et venir réinsister là-dessus, c'est vraiment une non-pensée, comme l'autre disait, Bézigui disait que ça, c'est une absence totale de pensée. Mais ça, c'est la mission recommandée. Si on est dans ce genre de configuration, avec soit des leurres, soit des oukases, bon, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. L'autre fois, je parlais de psychologie. C'est au-delà de la psychologie. C'est la pratique même du pouvoir qui est concernée là. Et bon, qu'est-ce que l'international dit sur ça? L'international est disqualifié parce que même sont allés faire des choses comme celle-ci ailleurs. Et c'est ça qui fait que l'Afrique est redevenue esclavagiste. Au regard, parce que les autres se sentent coupables maintenant, ils ne sont plus exemplaires, ils ne peuvent plus venir donner des leçons ici. Et c'est dommage, puisque par ailleurs, eux, ils sont constitués en une alliance sectaire où on trouve la franc-maçonnerie, l'Illuminati, tout ce que vous savez, qui fait qu'ils fonctionnent entre eux, ça va très bien. Mais c'est les peuples qui trinquent tranquillement. Bon, amis de Radio-Silence, je crois que j'en ai assez dit là, des choses qui vont me créer beaucoup de problèmes ici, mais moi je ne fais pas de combat politique au Cameroun. Hein. Franchement, ces choses qui m'arrivent là, où on empêche parce que je vais avoir 5 francs, mais ça, c'est ce que j'ai vu en France, avec le lobby international mondial qui se plaint de l'antisémitisme jour et nuit, alors que sont eux qui sont aux commandes de toutes les saloperies. Et c'est le mot, je pèse mon mot parce que j'aurais pu dire plus. Et que moi qui ne me mêle pas de leur politique, que le ministre de l'enseignement supérieur, plus le secrétaire général du ministère de l'information et de la communication, qui a probablement des problèmes d'autorité avec son patron, plus les chefs de département de l'ESTIC et son directeur qui peut-être avec des problèmes avec le prédécesseur. Je dis, moi, je viens me retrouver au croisement d'un combat ethnique entre l'Ombam, qui est un territoire, le centre ici, sud, qui est un territoire, et par-dessus tout ça, la France, la francophonie. Qu'est-ce que moi je fous là-dedans? Bon, le recteur, lui, les doigts là, hein, ça c'est encore le littoral, mais il parle au nom du centre, puisque c'est le centre qui coiffe tout. Mais c'est de la folie ici, hein. C'est de la folie ici avec cette histoire d'ethnie. Et je ne sais pas, si on interdit les intellectuels de parler de ça et de réfléchir à ça pour voir comment casser ce parasitisme ethnique tout en veillant à ce que ceux qui ont beaucoup d'argent ne viennent pas écraser les autres, parce que c'est ça le problème. On a peur de quoi? On a peur du Bamiléké, qui est de l'Ouest, parce que il a déjà Yaoundé, Douala, c'est déjà entre leurs mains. Les autres ont peur d'être mangés à la même sauce. Qui va réfléchir à ça si ce n'est pas les enseignants et les intellectuels, et si ce n'est pas qu'on veut affamer, et si ce n'est pas les artistes qu'on veut également affamer? Qui va réfléchir à ça? On rentre dans un système, franchement, ce n'est même pas soviétique, c'est parce que c'est du soviétisme aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je suis pas de combat politique, je me rends compte que j'ai discuté un peu d'une partie de ces choses-là avec un ami sur WhatsApp. Ah ben oui, évidemment, tout ce que j'ai dit sur WhatsApp. Tout de suite, ça me s'est repris. Vous allez voir, là aujourd'hui, j'ai reçu le chef de département de l'ESTIC avec qui j'avais travaillé. Oh, on vous signale qu'il est il arrivait dans Telegram. Oui, parce qu'il faut pas trop que ça se voit. C'est pénible, c'est l'espionnage partout. Vous voyez que tout ça, c'est une toile d'araignée que le citoyen aura beaucoup du mal à combattre et que il vaut mieux entretenir ces divisions-là. Voilà, vous voyez, la division, ça permet justement à cette toile d'araignée de continuer à tisser sa toile pendant que vous vous êtes occupés à vous déchirer les uns les autres entre ethnies. Amis de Radio Silence, j'ai pas beaucoup parlé de la campagne présidentielle française. Objet de mon focus en ce moment. On en reparlera, on va raccrocher la prochaine fois parce que, quand même, là au Cameroun, il y a des choses qui sont lamentables. Oui. Et puis, quand on parle de progrès, la Banque mondiale vient de rappeler aujourd'hui. Voyez, on emprunte pour payer les emprunts. L'argent coule, on ne fait rien avec. La Banque mondiale a rappelé aujourd'hui quand même qu'il va falloir qu'il y a 40% de pays, et notamment dans les pays, chez les pays pauvres, là, qui n'ont pas on n'a pas un tableau sur la lisibilité de la dette. Voyez, donc ils prennent l'argent comme ça à gauche, à droite, et tout ça n'est pas bon parce que c'est ça qui se retrouve à financer, à donner des subventions aux petits copains pour soutenir encore plus un régime, voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas net, et soutenir des choses, je veux dire, on entretient des satellites qui vont veiller à ce que ça reste, les choses restent en l'état, avec l'argent de la dette qui est supposé aller faire du développement. On est dans le sordide complet. Alors, M. Bedzigui dit, c'est l'économie. Bon, M. Issoumba, il dit, c'est l'économie. Je prends les deux là, parce que moi, je cherche les gens crédibles ici, hein, je ne sais pas les autres. Bien sûr, quand je dis bien sûr, Monsieur Bédzinguier, Monsieur Essomba, ils sont du centre ou du sud, mais ça ne prête pas conséquence dès lors que l'analyse vise la conscience nationale ou vise l'efficacité de l'appareil d'État. Bah, il y a très peu qui peut. Et puis la liberté de la parole, de l'expression. Monsieur Essomba a été viré de Vision 4. On le rappelle parce qu'il faut justifier la subvention de 2 milliards. Pendant ce temps, le propriétaire de cette chaîne épouse des femmes à la chaîne. Donc, ça s'est fait pour ces mariages somptueux. Bah, attendez, ici, la femme, déjà en Afrique, au Cameroun, la femme ne vaut rien. Elle vaut rien, elle n'a pas de place. Elle est complètement opprimée, dominée. Et ça, c'est encore un sujet, personne ne peut en parler. Et si les femmes sont évacuées complètement d'une société, vous savez, on mesure le développement d'une société aussi à la place que cette société accorde et fait aux femmes. Celui qui continue à mépriser la femme, il vit entre hommes, ces sociétés-là sont en retard. Ça encore, c'est un autre problème. Donc, on ne peut pas en débattre. Sauf dans les télés subventionnées par l'État, donc très enrégimentées, ben on en est là. Liberté d'expression, c'est fondamental. Mais comme j'ai écrit hier, il n'y a aucun verrou que l'usure du temps n'ait pas réussi à faire sauter. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde de Radio Mbok. De Radio Mbok. Oh là là, d'Élise Mbok. Quel lapsus. Je vous dis à bientôt.